aujourd'hui dans la grande table des idées qu'elle fabrique du consentement en démocratie. Notre invité, l'américain Stuart Ewens, historien des médias, spécialiste de la communication des images et des mythologies de la société de consommation, proche du courant situationniste français. Auteur au début des années 80 de « Conscience sous influence », un essai republié il y a 4 ans en France sous le titre « La société de l'indécence », cette décence commune, notion chère à Orwell, étant la cible privilégiée des sapeurs, des influenceurs de conscience. Aujourd'hui, la fabrique de l'opinion publique à l'ère de Trump et des réseaux sociaux, c'est le nom d'une soirée où il s'entretiendra avec Pierre Haski au cinéma Étoile Saint-Germain-des-Prés, qui aura lieu donc aujourd'hui, après la projection du documentaire Propaganda réalisé par Jimmy Leipold, dans le cadre d'une grande soirée propagande et démocratie organisée par l'INA, que vous pourrez voir en ligne sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel, à défaut de pouvoir y participer physiquement, rien n'est perdu. Bonjour à vous, Stuart Ewens.
Hello.
Et bonjour à votre voix française.
Heureux d'être avec vous.
Ravi de vous accueillir. Bonjour Michel Slotowski.
Bonjour, bonjour.
Propagande et démocratie, c'est le nom donné à cette soirée à laquelle vous participerez ce soir sur l'invitation de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Propagande et démocratie, deux mots que l'on peine un peu à accoler ensemble. Pourquoi ? La propagande, cet ensemble de techniques, de persuasion pour propager une idée, influencer une opinion publique, la propagande est-elle compatible avec la démocratie, Stuart Ewens ?
Je
crois que le lien entre propagande et démocratie
est quelque chose qui est venu de la nécessité.
Et quelque chose qui s'est produit par nécessité. Et non pas par aspiration démocratique. Les mouvements démocratiques, depuis le 17e, 18e siècle, s'appuyaient sur la publicité, sur la présentation des idées, qui était d'un côté une tentative pour éduquer le public, l'éduquer au sujet des événements, du pouvoir, des inégalités, mais aussi de présenter ces idées d'une manière qui évoquait l'idée d'urgence auprès du public lettré. Et c'est ce que l'on voit dans les écrits de Thomas Paine, qui a beaucoup d'influence ici en France, semble-t-il. Les droits de l'homme et Thomas Jefferson. Et donc il y a une longue histoire de mouvements démocratiques qui s'appuient sur la publicité comme une façon, une manière de transformer des inégalités sociales, qu'elles soient lisibles au public. Donc on parle aux États-Unis du mouvement abolitionniste de l'esclavage. Qui s'appuie essentiellement sur la publicité écrite pour que les abominations de l'esclavage soient visibles, lisibles, compréhensibles par les gens.
Et
la montée des mouvements féministes
et
les suffragettes reposait donc sur cette publicité. Donc le lien entre démocratie et la persuasion et les interactions humaines et la persuasion, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel.
La fabrique du consentement a une histoire que retrace le documentaire de Jimmy Leipold auquel vous participez, Stuart Ewens, et elle a surtout un cerveau, un inventeur, son nom, Edward Bernays. Il est né autrichien, il est devenu américain. Qu'est-ce que le XXe siècle lui doit, entre guillemets ?
Edward Bernays est venu de l'Europe. Non seulement il est venu de l'Europe, mais il était à table avec Sigmund Freud, qui était son oncle du côté maternel et du côté paternel. Sa mère était la sœur de Sigmund Freud. Son père était le frère de l'épouse du même Sigmund Freud. Donc il a grandi avec cette idée de l'inconscient, les fondations irrationnelles de la psychologie humaine. Et aux États-Unis, en tant que très jeune homme, il a pris cette idée des relations publiques. Il l'a fait sortir de l'actualité, de l'information chaude, si je peux dire, et a commencé à l'appliquer.
Psychology of the unconscious.
Et à l'appliquer aussi avec la psychologie de l'inconscient à la pratique de la persuasion.
Son premier grand coup au sein de la commission Krill, c'était de retourner l'opinion publique américaine qui était réfractaire à la guerre en faveur de l'entrée du pays dans la Première Guerre mondiale. Écoutez, extrait du documentaire Propaganda de Jimmy Leipold.
Les méthodes de la commission Krill leur apparaissent comme des solutions idéales pour mettre fin aux revendications sociales. S'il a été possible de faire adhérer les Américains à la guerre sans remettre en cause les principes démocratiques, il doit être possible de faire adhérer les classes ouvrières au modèle de société qu'ils ont toujours rejeté, le capitalisme.
After experiencing this world situation and recognizing
Après avoir fait l'expérience de la guerre et réalisé que les idées étaient des armes puissantes, j'ai décidé de voir si on pouvait appliquer ce que j'avais appris pendant la guerre en temps de paix.
En plus d'être le père de la propagande politique et commerciale, Bernays va développer les relations publiques à l'échelle industrielle. Il a été influencé notamment par Walter Lippmann, l'auteur de l'opinion publique. En régimenter l'opinion publique, selon sa formule, il va utiliser en temps de paix, c'est ce qu'il explique dans ce documentaire, les méthodes de propagande utilisées jusqu'ici en temps de guerre pour faire vendre, pour faire consommer et créer un nouveau modèle de société où acheter ne doit plus relever du simple besoin mais du désir. Comment s'y prend-il, Stuart Ewan?
Well, first of all, it must be noted.
Eh bien, il faut tout d'abord souligner que le développement de beaucoup d'idées américaines, dans ce cas, l'idée de propagande, héritée ou empruntée des idées les plus dangereuses qui venaient d'Europe. Par exemple, Bernays et Walter Lippmann et d'autres spécialistes dans la fabrication du consentement ont été fortement influencés par les idées de Gustave Le Bon, qui en 1895 a dit que la manipulation scientifique des masses est la dernière chance pour les hommes d'État de maintenir les inégalités sociales et les inégalités économiques et dans le même temps et en même temps parler aux gens qui soutenaient les idéaux démocratiques. Donc ce que Bernays a fait a été de créer une stratégie, des stratégies qui pourrait laisser de côté ou pourrait éviter les capacités critiques des gens et au lieu de créer des stimuli qui parleraient aux émotions des gens, qui parleraient à leurs peurs cachées, à leurs désirs. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que différemment de ce qu'on appelle la publicité de l'ère des Lumières, les gens ne verraient pas la différence entre la raison et l'émotion et comprendraient que ces deux choses-là font partie de la même chose. Aux États-Unis, il y a toute une industrie qui est construite qui voulait éviter les capacités critiques de réflexion des gens et de s'adresser à la place
à leurs
craintes et désirs inconscients. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est devenu un moyen extrêmement efficace de persuasion qui affectait tous les aspects de la vie américaine et qui, en même temps, a créé une sorte de modèle, de gabarit de la façon de traiter des relations publiques où la capacité de réfléchir a été amputée du discours politique.
Voilà, mais Stuart Ewen, il faut quand même rendre à César ce qui vient et appartient à César. Il a eu une idée géniale, cet inventeur Edward Bernays. Créer des circonstances, changer le contexte, se démarquer de la norme sociale. Il va avoir l'idée de mettre de la valeur dans les choses. Par exemple, dans la cigarette, et c'est un des exemples les plus connus qui est développé dans ce documentaire, il va y insuffler la valeur, la notion de liberté pour les femmes.
Well, one of the most well-known of Edward Bernays' campaigns.
Mais une des campagnes les plus connues d'Edward Bernays, c'est lorsqu'il a été engagé par la American Tobacco Company pour encourager les femmes à fumer en public. Avant, c'était considéré comme malvenu, inapproprié. C'était dans les années 1920. Un moment où les femmes américaines venaient juste d'obtenir le droit de vote. Je sais que ça a pris beaucoup plus de temps ici en France. Mais ce qu'il a fait, il a parlé à des collègues de son tonton Sigmund Freud, un homme qui du nom de Brill. Et Brill a suggéré que la cigarette, c'était un substitut de pénis symbolique. C'est un symbole phallique. Il a aidé à organiser une marche des femmes pendant la période de la manifestation, la parade de Pâques. Et à un signal donné, toutes ces femmes ont sorti une cigarette
by this campaign,
qui a été pronommée par cette campagne les torches de la liberté. Donc c'est une capacité de prendre un symbole détaché de son idée et de lui permettre de signifier l'émancipation de la femme.
Alors aujourd'hui, on arrête de fumer ou on essaye d'arrêter de fumer parce que les experts, les instituts de santé nous disent que fumer est mauvais pour la santé, ce qui ne fait pas les affaires des lobbies et des industries de cigarettiers. Mais à l'époque, il faut quand même se dire que sous Bernays, on faisait même fumer les médecins pour inciter à la consommation. Les médecins fumaient face caméra et disaient que la cigarette était bonne pour la santé. C'est lui qui va inventer la notion de leader d'opinion. C'est un filon qui va largement exploiter en débauchant dans tous les secteurs des figures d'autorité, des professionnels du secteur, des artistes aussi, pour porter cette parole-là.
I mean, Bernays understood.
Bernays avait compris
that opinion was not a simple
que l'opinion, c'était pas simplement de passer d'un point à un autre, c'était pas un voyage qui vous emmenait d'un point à un autre. Il considérait la société comme un réseau de voies ferrées.
Or to use a phrase from a French sociologist,
un sociologue français qui l'a influencé,
that ideas travel along grooves of borrowed thought.
Voyage le long d'idées empruntées.
Like a phonograph needle.
C'est comme une aiguille de phonographe, vous voyez, sur un disque noir. Et pendant que les gens parlent, quand les gens parlent, ils croient qu'ils expriment leurs propres idées. Mais ces idées leur ont été inculquées par diverses institutions et des gens d'influence. Et donc, ce que Bernays avait compris, c'était que il y a des réseaux à des niveaux inégaux d'influence à travers toute la société. Et si vous pouvez créer une carte, une cartographie, si vous voulez un organigramme pour comprendre comment les idées des uns deviennent les idées des autres, alors à ce moment-là, vous n'aviez pas besoin de toucher tout le monde. Il suffisait de faire entrer en scène des gens qui avaient des positions d'autorité et de respecter dans ce processus-là. Et en passant, c'était quelque chose qui a été emprunté à la commission Creel au cours de la Première Guerre mondiale, où ils ont utilisé des dirigeants communautaires qui faisaient des petites présentations pendant les projections de films au cinéma, parce que c'était des dirigeants de communauté. Et s'ils étaient face à leurs voisins, c'était des gens que l'on respectait. Mais ce respect était simplement un véhicule qui a été utilisé pour la propagande. Et le terme qui a été utilisé à cette époque et qui continue d'être utilisé dans le champ de la propagande moderne, c'est leader d'opinion. Ce sont des gens qui, s'ils peuvent être influencés, eh bien eux, leur influence va percoler dans le reste de la société.
La méthode, le protocole, Bernays, vous nous l'expliquez, Stuart Haven, c'est de court-circuiter toute pensée critique chez l'individu, c'est de tenter de focaliser le message sur le ressenti. On a souvent pris cet exemple assez simple. Avant, c'était les commerçants, les industriels qui tentaient de vendre leurs produits. Avec Bernays, c'est une inversion qui va se produire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le client qui soit se mette en position de désirer et de supplier pour qu'on le lui vende. Et ça va être ça le tour de passe-passe magique qu'il va réussir à opérer. Et c'est pour ça que tous vont finir par essayer de s'inspirer de ces méthodes du côté de l'industrie, mais aussi du côté politique. Dans toutes ces sphères, on va chercher les méthodes, le protocole Bernays. Pour comprendre juste comment la psychanalyse l'a influencé dans sa réflexion, quelle place accordait-il d'un côté au moi, à l'individu, à l'inconscient, et quelle représentation, perception avait-il de la masse, des foules, du collectif ?
Bernays, who I met with.
Mais j'ai rencontré Bernays. J'ai écrit un livre qui, dans une certaine mesure, a fourni la base pour le documentaire de Jimmy Leopold. Et le premier chapitre du livre s'appelle « Rendre visite à Edward Bernays ». Et donc j'ai passé... Il allait avoir 100 ans, mais il avait toujours un esprit clair.
Il est mort en 95 à 103 ans, je crois, de mémoire.
Il avait 102 ans. Lorsqu'il est mort, je suis allé lui rendre visite en
1992-1993.
Et il a transformé cette entrevue en une séquence de relations publiques à sa gloire. Et si vos auditeurs peuvent lire l'histoire de Bernays, ils vont trouver quelque intérêt à cela. Ils vont trouver ça amusant aussi. En fait, il m'a tourné, il a joué de moi comme il aurait joué d'un violon. Mais c'était quelque part aussi mon espoir qu'il le fasse. Et que cette rencontre avec lui présenterait en termes très vifs et vivants
Une
des croyances fondamentales de Bernays, c'était que les gens, en général, sont bêtes.
And he would say this again and again.
Et il le répétait.
I know his daughter, Anne Bernays.
Je connais sa fille, Anne Bernays. Elle m'a dit...
Edward Bernays would be continually talking about how everybody's stupid.
À table, Bernays disait de tout le monde que c'était des gens, que les gens étaient bêtes, y compris sa fille.
And therefore, he felt that people were incapable of self-rule.
In other words, the fundamental idea of democracy. De se diriger eux-mêmes et que l'idée fondamentale de la démocratie. Il comprenait que la démocratie, il fallait qu'on y réagisse. Réagir à l'idée que les gens croient qu'ils ont un rôle de prise de décision. Mais il ne croyait pas que les gens soient capables de se diriger eux-mêmes, d'avoir la souveraineté. Et donc il croyait que pour que la démocratie fonctionne, étant donné ce qu'il pensait des capacités mentales plutôt réduites du public en général, il était nécessaire d'avoir un groupe de personnes que l'on appellerait la minorité intelligente.
And the intelligent few
et la minorité intelligente
would be, and again, he
serait,
used this terminology,
il utilisait cette terminologie,
the invisible wire pullers, the
les marionnettistes invisibles.
And so that society needed to
generate devait générer un groupe
invisible wire pullers,
de marionnettistes invisibles dont la fonction dans le travail serait à tout moment d'importance pour la vie publique, d'être capable de stimuler les sentiments du public et en même temps d'éviter toute information qui pourrait rendre cette stimulation difficile à accepter. Les gens parlent de lui comme s'il avait été grandement influencé par Freud, mais il était aussi énormément influencé par Pavlov. Vous savez cette histoire, chaque fois qu'il donnait une boulette à son chien, il sonnait une petite clochette, et puis après un moment, le chien associait tellement la clochette avec la nourriture que le chien se mettait à saliver rien qu'en entendant la clochette.
Et
Bernays croyait que si vous faisiez retentir la bonne sonnette ou la bonne clochette, ben les gens commenceraient à saliver.
Est-ce qu'il a été aussi inspiré par Machiavel ? Parce que Bernays, dans la manière dont il se présentait, en tout cas, n'avait pas l'air d'être un sinistre prince. Il disait toujours qu'il agissait avec conviction et avec éthique. C'est un mot qui revenait souvent dans sa bouche, et vous le rappelez. Comment son approche a changé la politique ? Comment elle a affecté la démocratie ?
Well, it had a it degraded the quality of political consciousness.
Il a abaissé le niveau de conscience politique.
It degraded the quality of public discussion.
Il a abaissé le niveau du débat public.
It meant that you had
ce qui signifie
large numbers of people.
Il y a un nombre énorme de gens dont les affects, que l'on parle dans la vie politique, dans la décision de faire la guerre, on parle de d'acheter du savon ou du lard.
The issue of whether or not the soap would make you clean.
L'idée que, par exemple, la question de savoir si le savon vous rendrait plus propre ou pas était secondaire par rapport à la question est-ce que cette barre de savon-là était plus désirable qu'une autre ? Et je dirais que, au cours des années 1920, la stratégie fondamentale qui a été provoquée par Bernays, la stratégie fondamentale qu'il a provoqué, a été appliqué dans le domaine commercial. La vente de produits, c'était une époque où la production de masse de biens qui autrefois ne faisait pas partie de la vie quotidienne des gens, ou si elle faisait partie de la vie quotidienne des gens, faisait partie des productions à domicile, et les gens étaient encouragés à acheter des produits qui était fabriqué en masse. Et tout ce domaine du désir, et ce désir d'insécurité, ce domaine de la crainte, sont devenus le marché de l'émotion, où ces biens étaient vendus.
Mais lui se considérait et se qualifiait comme démocrate. Il était un démocrate, selon lui. Est-ce que vous lui retirez cet attribut, ce qualificatif? Est-ce que vous considérez qu'il n'était pas un démocrate?
Democracy means a lot of things.
Vous savez, la démocratie, ça a beaucoup de sens, hein. There is a tradition Il y a une tradition
which believes that
qui croit que la démocratie est le résultat d'un public informé, capable de comprendre les problèmes sociaux, politiques et culturels, et capable aussi d'agir sur la base de ces informations. Il y a cette tradition,
et
il y a aussi une tradition très forte qui considérait la démocratie comme une activité de participation qui venait du bas vers le haut. Je crois que pour Bernays, la démocratie représentait un problème. Et que la solution de ce problème, c'était de fabriquer un accord, un consensus démocratique, de fabriquer le consentiment, tel que Walter Lippmann l'a dit, la fabrication du consentement. Une des choses qui est intéressante au sujet du film, du documentaire Propaganda, c'est que dans ce film, qui est un film merveilleux,
Bernays
est présenté comme le premier théoricien de la propagande aux États-Unis et de l'opinion publique. Je ne crois pas que c'est vrai. C'était le premier praticien. C'est plutôt Walter Lippmann qui a écrit un livre en 1922 qui s'appelait L'opinion publique, qui fondamentalement était comme un guide sur la façon dont les dirigeants pouvaient amener le public à accepter les décisions que ces dirigeants voulaient faire.
Le véritable cerveau. Invité de cette deuxième et dernière partie de la grande table des idées, l'américain Stuart Even, historien des médias. On est ensemble jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le terme de propagande a désormais mauvaise presse, mais les techniques subsistent. Comment ont-elles aidé les industries et plus tard les politiques à comprendre et donc à manipuler l'opinion ? Je vous propose d'écouter un extrait d'un autre documentaire. The Century of the Self, le siècle du moi, série documentaire de 2002 réalisée par le cinéaste Adam Curtis pour la BBC, une analyse du développement du moi citoyen et du consommateur roi, avec au cœur de cette histoire sociale en quatre volets, cette histoire sociale de l'individu, le rôle là encore joué par Freud et ses descendants. Là, on part à l'époque Clinton.
Pour entrer dans l'esprit des électeurs indécis, Maurice importa le marketing du mode de vie dans la politique pour la première fois. Il s'est tourné vers une des compagnies de recherche en marketing les plus influentes des USA, appelée Penn & Shun, et il leur commanda ce qu'ils appelaient un sondage de neuropersonnalité. Il s'agissait d'un sondage massif de centaines de milliers d'électeurs. Mais la seule question politique consistait à demander à chaque électeur s'il était ou non un électeur indécis. Toutes les autres questions étaient des questions psychologiques intimes, conçues pour découvrir si les électeurs indécis correspondaient à des catégories psychologiques identifiables.
Nous posions des questions comme « Pensez-vous être la vie du parti ? Quand vous voyez des choses que vous aimez, tenez-vous une liste pour les organiser ? Avez-vous l'habitude de préparer les choses ou êtes-vous plus spontané ?
Where do you like to go? What sports do you like to play?
Où aimez-vous aller? Quel sport aimez-vous? Que feriez-vous avec votre épouse lors d'un week-end romantique? Nous leur avons posé des questions très personnelles sur leur propre vie, afin de savoir si ceux qui seraient susceptibles de changer leur vote présentaient des traits de personnalité spécifiques. Et c'était le cas.
Extrait du documentaire d'Adam Curtis, The Century of the Self, inspiré de vos travaux, Stuart Even, et notamment de votre ouvrage phare, Conscience sous influence, publié au début des années 80, traduit en France à plusieurs reprises. On entend dans cet extrait comment les méthodes, le protocole de Bernays ont continué à égrener au fil des décennies et la place importante que cette manipulation des consciences et de l'opinion a pris dans la sphère politique. politique. Burness disait « la propagande, c'est l'organe exécutif du gouvernement invisible ». Ça, il l'avait écrit en 1928 dans son ouvrage à lui, « Propaganda ». Est-ce que ça aurait pu être écrit aujourd'hui, Stuart Ewan, en 2018 ?
Je pense que
le
langage qui traverse ce livre Propaganda devrait être un peu reconfiguré pour des besoins de relations publiques, disons-le.
Burness
croyait que le public en général
était
ignorant et incapable de se gouverner. En tant que tel, le livre qu'il a écrit au cours des années 20 a été écrit pour des gens comme lui. Et comme le public américain est devenu plus éduqué, plus instruit, et je dirais plus cynique, en ce qui concerne les stratégies de persuasion, il est devenu nécessaire de changer le terme propagande et le transformer en relation publique. Et ça, c'était une décision de relation publique, de changer ce nom de propaganda en relation publique. Mais
the books which I think have
les livres qui ont été semblables à Propaganda au cours des dernières années, ce sont des livres qui utilisent des termes de neurosciences, particulièrement la résonance magnétique, par exemple, le FMRI en anglais, où des gens sont mis dans des scanners, et on leur envoie certains stimuli et on cherche à voir quelle partie du cerveau cela illumine, où va le flux sanguin. Et les gens sont fascinés par ça, parce qu'ils voient des images du cerveau humain en train de réfléchir ou en train de réagir. Il y a quelque chose de très sexy là-dedans. Et il y a une femme qui a écrit un livre sur le développement de la recherche en résonance magnétique et des images que l'on voit du cerveau, où on dit ils ont choisi ils ont choisi les couleurs parce qu'ils ont été influencés par l'art psychédélique pour créer des images qui apparaissent de façon très vive et qui racontent une vérité biologique. Et donc il y a tout un paquet de littérature qui a émergé sur le neuromarketing, sur l'influence des neurones de certaines zones du cerveau sur le comportement économique dans un sens ou dans l'autre. Et donc, depuis un certain temps, ça a cessé avec l'époque Trump, mais pendant très longtemps, il y a eu cet espoir de pouvoir cartographier l'esprit du peuple d'en faire cette cartographie pour que ça soit plus manipulable.
Et aujourd'hui, alors que la communauté des journalistes est en train de baisser, diminuer, celle des communicants continue à exploser, il y aurait maintenant 5 conseillers en relations publiques pour un reporter aux États-Unis, un nouveau ratio qui éclaire peut-être aussi un peu sur le nouveau rapport de force communication-information et qui ne vous étonnera pas, vous, l'auteur de PR comme Public Relations de cet essai. Merci beaucoup à vous, Stuart Ewan. On vous retrouvera donc ce soir, pour ceux qui sont parisiens et qui le souhaitent, au cinéma Étoile Saint-Germain-des-Prés pour un débat-discussion avec Pierre Aski sur la fabrique de l'opinion publique à l'ère de Trump et des réseaux sociaux, qui suivra la projection du documentaire Propaganda de Jimmy Leipold. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Leskovic et à Laura Dutech, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, Alexandre Fougeron avec Jean Frédérix. Très bel après-midi à tous et merci beaucoup.